Et bonjour Richard Wilkinson, merci bonjour. D'être là. Vous êtes traduit par Maître Zlotowski à côté de vous. Pour vous présenter, pour expliquer aux auditeurs qui vous êtes, j'ai envie de dire quelle est votre spécialité. Votre spécialité, c'est l'épidémiologie sociale, discipline que vous avez enseignée notamment à l'université de Nottingham, au University College de Londres, à l'université d'York. Et l'épidémiologie sociale, c'est une démarche qui est résolument originale, qui consiste donc à étudier des maladies, mais des maladies sociales. Et l'une de ces maladies, selon vous, ce sont les inégalités. Et c'est cela, en fait, l'originalité de votre démarche. D'où ma première question, Richard Wilkinson. En quoi les inégalités rendent-elles malades? Expliquez-nous.
Well, what inequalities do is make class and status.
Ce que font les inégalités, c'est que ça empire les inégalités de classe sociale. Ça augmente l'idée que certains sont tellement plus importants, valent tellement plus que d'autres, et nous nous jugeons plus par statut social. Et ça veut dire que nous sommes beaucoup plus inquiets de la façon dont nous sommes jugés. Et ça va au cœur des problèmes d'auto-jugement et de la façon dont on se considère soi-même et d'estime de soi. Et une de ces réactions, c'est que vous commencez à voir que les contacts sociaux sont terriblement difficiles, vous vous retirez de la vie sociale parce que vous avez peu d'estime de vous-même. Et l'autre chose, c'est que vous vous inquiétez de plus en plus de la façon dont vous êtes considéré et vous êtes plus dans le paraître. Vous tentez d'apparaître beaucoup plus positif aux yeux des gens.
C'est ce que vous expliquez dans le livre qui vient d'être traduit en France aux éditions des Liens qui Libèrent, Pour vivre heureux, vivons égaux, livre que vous avez co-écrit avec Kate Pickett, Richard Wilkinson. Vous expliquez notamment que les sociétés inégalitaires sont des sociétés où les gens sont stressés et que ce stress, il rend malade, il tue. Donnez-nous des exemples.
Well, the relationship between
la relation entre le stress chronique qui se poursuit pendant des semaines, des mois, des années n'est pas tout à fait claire sur la santé. Mais en fait, le système cardiovasculaire, le système immunitaire soumis à un stress à long terme vous fait vieillir plus rapidement. Ça change beaucoup de priorités physiques.
Et oui.
Effectivement, ça vous empêche de pouvoir vous occuper de ce qui est véritablement urgent pour votre santé.
Et puis, vous expliquez aussi qu'il y a des maladies qui sont peut-être moins visibles, même si on les côtoie tous les jours, telles que par exemple la timidité sociale, telles que par exemple le manque de confiance en soi et ces différentes phobie, parce que ça peut aller jusqu'à la phobie, sont particulièrement présentes dans les sociétés inégalitaires, Richard Wilkinson.
Une des choses que notre livre tente de faire, c'est de comprendre les très hauts niveaux de stress dans la plupart des pays développés. C'est plus haut dans certains que dans d'autres. Avec un niveau de plus en plus élevé de maladies mentales, c'est commun en France et dans d'autres pays développés. Donc une personne sur cinq dans la population a un problème mental selon les critères normaux de maladies mentales, dépression, etc. Anxiété. Et au centre de cela, ce sont ces inquiétudes sur la façon dont on est vu et jugé. Et l'estime de soi et la façon dont on s'évalue soi-même. Donc, d'un côté, on a des désordres sociaux dus à l'anxiété, et d'un autre côté, des tentatives de paraître beaucoup mieux que l'on est grâce à un consumérisme d'apparat, par un narcissisme aussi extrême, et qui finit par déboucher sur une sorte de psychopathie. Et dans certaines sociétés, la psychopathie devient de plus en plus grave. C'est quelque chose qui est sélectionné dans certaines organisations et dans certaines entreprises. On sélectionne les gens sur leur aspect, sur leur côté psychopathe.
Alors, comme vous le savez, professeur Wilkinson, le débat sur les inégalités est particulièrement aigu en ce moment en France. Comment jugez-vous notre pays? Est-ce que vous pouvez nous situer par rapport aux autres pays du point de vue des inégalités que vous avez étudiées?
Well,
Nous avons utilisé une mesure extrêmement simple, c'est les différences et les écarts salariaux entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. La France est au milieu des pays les plus développés. C'est plus égalitaire que des pays comme les États-Unis et l'Angleterre, mais plus inégal que les pays scandinaves ou le Japon, selon certaines mesures. Vous n'êtes pas en aussi mauvaise posture que l'Angleterre, mais vous êtes pire que d'autres pays. Les conséquences sont énormes. Il y a beaucoup plus de niveaux d'homicides dans les pays inégalitaires, beaucoup plus de gens en prison, plus d'obèses, plus de maladies mentales. Tous ces problèmes qui sont plus communs en bas de l'échelle sociale, eh bien ces problèmes-là deviennent plus communs dans toute la société qui est plus inégalitaire. Les effets de l'inégalité sont connus sur les pauvres, mais il y a aussi des gens riches qui ont des bons emplois, qui gagnent bien leur vie, eh bien aussi et souffrent de problèmes mentaux quand ils sont dans un pays très inégalitaire.
Comme vous le savez, professeur Wilkinson, la France traverse actuellement une période de contestation sociale. Quel regard posez-vous sur cette contestation? Qu'est-ce que vous auriez à dire au gouvernement, peut-être aux manifestants, au sujet donc du thème qui vous a occupé votre vie durant celui des inégalités?
Je crois que une grande partie des difficultés politiques qu'ont les pays, l'élection de Trump aux États-Unis, le Brexit en Angleterre, ou les partis populistes dans les pays, dans divers pays européens, à leur racine, c'est l'inégalité. Une enquête allemande qui regarde quels sont les problèmes dans les régions de France et d'Allemagne qui soutiennent les partis populistes ont découvert qu'il y a des éléments très communs, et c'était que les gens se sentent dévalués. Les gens se sentent qu'ils ne comptent pas. Et c'est un effet substantiel de l'inégalité.
Et alors justement, dans ces inégalités à la française, il en est une qui est particulièrement soulignée en ce moment, ce sont les inégalités territoriales. Il y a par exemple eu une enquête sur la France en morceaux qui montre à quel point les services publics sont absents dans certaines régions, les transports qui posent problème. Et là aussi, quelles sont les conséquences de ces inégalités qui ne sont pas tant des inégalités individuelles que des inégalités collectives pour les habitants de certains lieux, professeur Wilkinson?
Les services publics sont évidemment importants. En Angleterre, comme les mesures d'austérité sont entrées beaucoup plus dans le secteur public, le taux de décès s'est accru, et aussi la mortalité infantile s'est accrue. Et ces deux groupes de gens très vulnérables voient leur taux de mortalité augmenter. Et il semble que ce soit un effet de l'austérité et des coupes dans les programmes de services publics. Mais les effets de l'austérité ne sont pas les mêmes. Les services publics sont importants, mais les gens ont étudié de très près pour voir quel est l'effet sur l'inégalité. Et l'inégalité fait des dommages séparés dans votre situation personnelle par rapport aux autres.
Mais alors, votre discours est quand même très original par rapport aux pays anglo-saxons où on considère que c'est au contraire la compétition, la concurrence qui est bonne pour les individus, que lorsque on n'a pas d'aiguillon, d'incitation, on travaille beaucoup sur les incentives, les incitations en économie, si on n'a pas d'incitation à se dépasser, eh bien on a plutôt tendance à s'endormir. Vous pensez tout le contraire, Richard Wilkinson?
Yes, this is a widely assumed.
Oui, c'est un avantage que l'on pense de l'inégalité, c'est-à-dire ces incitations. Lorsque on nous a véritablement dit qu'il fallait de l'inégalité pour booster l'initiative, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut vérifier ça. On a regardé les brevets. Vous savez, quand vous inventez quelque chose, combien y a-t-il de brevets par population? Eh bien, il y a moins de brevets par population dans les pays inégalitaires. Mais maintenant, il y a une autre étude beaucoup plus importante qui montre qu'il y a véritablement une tendance lourde pour que les pays les plus égalitaires sont les plus inventifs. Par exemple, les scores de mathématiques et de littérature sont plus faibles pour les enfants dans les pays inégalitaires. La mobilité sociale est inférieure dans les pays inégalitaires. Par exemple, les avantages et les désavantages parentaux sont donnés en héritage aux enfants.
Mais alors, si je vous suis, et c'est ce que vous développez dans Pour vivre heureux, vivons égaux, le livre que vous publiez avec Kate Pickett aux éditions des Liens qui libèrent, si je vous suis, Richard Wilkinson, ça veut dire que finalement, il faut faire confiance aux individus, que l'idée selon laquelle si on a trop de mécanismes d'assistance, on crée des assistés, c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche pour vous.
You're talking about support from people around you and trust. That all goes down with more inequality.
Vous savez, le soutien des gens qui sont autour de vous baisse avec l'inégalité. Toutes les enquêtes montrent que plus l'inégalité augmente, moins les gens vous aident à l'échelon communautaire. Les gens vous font beaucoup moins confiance. Il y a une augmentation de la violence. C'est pas simplement que l'on perd cette réciprocité et l'esprit d'entraide, mais les gens sont de moins en moins enclins à s'entraider. Les études dans les pays européens montrent que dans les pays plus inégalitaires, les gens ne sont pas prêts à aider les handicapés. Par exemple, tout s'écroule.
Et lorsque l'on voit ça, on se dit que, par exemple, la méritocratie pourrait être une solution. Ça n'est pas forcément ce que vous développez. Expliquez-nous pourquoi, Richard Wilkinson, pourquoi la méritocratie, selon vous, est pas forcément la solution idéale.
When I was starting to understand much more about the malleability of the human brain,
en comprenant mieux la malléabilité du cerveau humain chez les enfants avec les imageries, par exemple du cerveau, quand les gens sont en train de lire, par exemple quand un chauffeur de taxi doit apprendre toutes les rues de Londres pour pouvoir conduire, la partie du cerveau qui s'occupe de ça se développe. Si vous apprenez une autre langue, et j'aurais bien aimé pouvoir parler français, ou si vous apprenez à danser, si vous apprenez à jouer d'un instrument, ça affecte la structure de votre cerveau. Et il y a aussi des effets de la pauvreté sur le cerveau. Et finalement, nous savons maintenant que nous sommes bons dans ce que nous faisons. Notre cerveau reflète notre expérience de vie. Et au lieu d'avoir des différences en intelligence et en capacité qui déterminent où vous allez dans la hiérarchie sociale, il semble que cette relation va dans l'autre sens. Votre position au sein de la hiérarchie sociale, en grandissant, en mûrissant, vous amène à des différences de capacité dans votre cerveau.
Et le rapport entre les classes sociales, parce que là aussi en France, on réalise finalement qu'on a peut-être oublié un peu vite la lutte des classes, l'existence des classes sociales, du point de vue donc de vos recherches sur les inégalités, quelles sont les conséquences à la fois de cette lutte des classes et même de l'existence de classes sociales distinctes, professeur Wilkinson?
Je
parle souvent des inégalités en tant que relation sociale entre supérieur et inférieur, les dominants et les subordonnés. Cela accroît cette composante, cet axe vertical dans la société. Et c'est la façon dont les gens s'évaluent eux-mêmes, ou sont évalués. Et les autres aspects, c'est comment nous sentons évalués. Est-ce que nous avons des amis? Ça fait partie de cette image-là. Si vous avez des amis, c'est des amis qui vous évaluent à votre juste valeur. Si vous êtes considéré comme étant quelqu'un d'amusant, d'attractif, toutes les hiérarchies sociales, c'est simplement la dimension la plus importante sur la façon dont les gens sont évalués différemment. Et dans beaucoup de multinationales, le directeur général se paye 300 fois ou 400 fois le salaire de l'employé de base. Il n'y a pas de meilleure façon de dire à un groupe de population qu'ils ne valent rien, qu'ils ont une valeur de 1/3 d'1% de ce que vous payez vous-même.
Mais alors, où faut-il s'arrêter, selon vous, dans la recherche de l'égalité ? À partir de quand est-on dans l'égalitarisme ? Parce qu'il y a aussi une tradition de critique de l'égalitarisme. On peut penser par exemple à George Orwell, Richard Wilkinson, compatriote pour vous. Quand peut-on estimer qu'il y a trop d'égalité ou que la recherche de l'égalité est nuisible ?
On pose souvent cette question. Nous sommes des épidémiologistes, nous travaillons de façon empirique, nous comparons des niveaux d'inégalité dans différentes sociétés. Nous n'avons pas d'exemple de pays plus égalitaires que les pays scandinaves, par exemple, mais nous pouvons dire que c'est au moins c'est bénéficiaire, c'est bon pour les gens de ces pays-là. Peut-être que ça serait meilleur de devenir plus égalitaire, mais on n'a pas d'exemple. Tout l'argument au sujet de l'inégalité a été détourné par le communisme, par l'égalité qui avait été ordonnée, dictée. Nous voulons plutôt autre chose. Nous voulons diminuer l'inégalité en étendant la démocratie sur les lieux de travail, dans l'économie, dans la représentation des salariés, au conseil d'administration, par exemple. C'est des choses de ce type-là. C'est une façon nettement supérieure de le faire plutôt que par restreindre la démocratie, comme les communistes l'ont fait.
Richard Wilkinson, Kate Pickett, pour vivre heureux, vivons égaux, comment l'égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous. C'est votre livre, il est publié aux éditions des Liens qui Libèrent. Vous avez été traduit par Maître Zlotowski et votre livre est traduit de l'anglais par Élise Roy.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Que ferait un docteur en philosophie précaire, idéaliste et moralisateur s'il se trouvait par hasard en possession d'un butin de plusieurs millions de dollars issu d'un braquage, entre rendre l'argent à un État qui le gaspillerait dans des projets inutiles, le garder pour changer sa vie et celle de ceux qu'on aime? Comment définir et choisir la solution la plus éthique? Eh bien, c'est à cette question que tente de répondre Denis Arcan. Bonjour Denis Arcan. Dans votre film « La chute de l'Empire américain », une forme de fable philosophique qui sort en salle le 20 février, après le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, c'est en quelque sorte le troisième terme de cette trilogie. On écoute un extrait de ce film.
Si t'es si intelligent que ça, pourquoi t'es pas président d'une banque? Recteur d'université? Celui de Lennoxville est parti avec une indemnité de 650 000.
C'est ça que je te dis? Je suis trop intelligent.
Pardon?
L'intelligence, c'est pas un avantage, c'est un handicap. Disons que tu vends des aspirateurs, t'es légèrement stupide. Là, tu dis à la dame, « Madame, cet aspirateur-là va vous rendre vraiment heureuse. » Et puis t'en es convaincu parce que t'es légèrement stupide. Là, la dame est touchée par ta sincérité, elle achète l'aspirateur, le modèle de luxe. Et puis là, t'es nommé vendeur du mois, gérant général, président de la compagnie. Success story. Mais si t'es un tant soit peu intelligent, tu sais très bien que le bonheur n'a rien à voir avec un électroménager. Là, la dame devine ce que tu penses. Elle achète pas l'aspirateur. Puis tu retournes au chômage.
T'en profites pour écrire un grand roman sur la misère humaine. Tu deviens riche et célèbre.
Non. Parce qu'encore là, l'intelligence est un handicap. La plupart des grands écrivains étaient bêtes à manger du foin. Dostoïevski a vendu le manteau de fourrure de sa femme pour aller jouer au casino. Il était sûr de gagner, incapable de comprendre la loi des probabilités. Tolstoï interdisait à ses paysans de se faire vacciner. Louis Ferdinand Céline s'est réfugié en Allemagne avec les derniers SS. Un fou furieux. Hemingway se prenait pour un boxeur. C'est pas des types brillants.
Pierre-Paul Daoust, on l'entend, c'est le personnage principal de votre film, Denis Arcan. Il a 36 ans, il a un doctorat de philosophie, c'est-à-dire rien, quoi, en fait.
Non, rien. Et surtout que, à son âge, Les baby boomers ont tout occupé les postes. Alors, tous les postes universitaires sont remplis pour encore longtemps. Alors, ce qu'il peut espérer au mieux dans son domaine en philo, c'est être chargé de cours à temps partiel. Et comme il le dit lui-même, un livreur est mieux payé. Donc, il préfère livrer des lettres pour une messagerie.
C'est un intellectuel prolétaroïde, c'est un type de personnage que vous affectionnez, vous aimez filmer les intellectuels, Denis Arcand.
Parce que j'ai passé ma vie avec eux. J'ai une licence d'histoire et je suis resté ami avec plein de gens qui sont des profs d'université.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins que...
Rien, je les connais, c'est tout. Je parle de gens que je connais et c'est plus facile pour moi que de parler d'eux que de parler des mineurs de fond que je ne connais pas.
Bon, mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend quand même que les intellectuels sont peut-être en moyenne un peu plus névrosés que le reste de la population. Ils se posent peut-être trop de questions.
Non, sauf que il y en a beaucoup qui se comportent comme des idiots. Et que probablement, le génie, parce que bon, Dostoïevski et Tolstoï, c'est des génies immortels de l'humanité. Ils étaient aussi, dans la vie courante, presque des idiots. Et donc, j'ai envie de parler de ça, de cette dualité-là.
C'est une bonne définition d'ailleurs de votre héros Pierre-Paul Daoust, parce que effectivement, comme il a beaucoup lu et beaucoup réfléchi, il est à peu près pétrifié et il n'arrive pas du tout à avancer dans l'existence. Du coup, il continue à livrer, alors que manifestement, il aspirerait à un autre destin.
Oui, bien sûr, mais il trouve que il est trop intelligent. Parce qu'il voit tous les gens au pouvoir, tous les gens qu'on voit dans les médias, etc. Et il se dit, mais c'est tous des idiots. Moi, la raison pour laquelle je n'avance pas, c'est que je suis trop intelligent. Puisque les gens comme moi, parce qu'il doit avoir des amis ici et là, qu'il connaît, qui sont paumés, qui tout ça. Et eux, ils les trouvent intelligents. Donc, il se dit, le monde est fait pour les idiots.
Mais il a raison ou il a tort?
Il a partiellement raison, partiellement tort. Parce qu'après, le film va démentir exactement cette proposition-là, puisque il va trouver des gens intelligents, parce que comme il est lui-même intelligent, il y a une chose qu'il sait, c'est que quand il ne sait pas, il va chercher le savoir. Et donc, il est devant ce 12 millions de dollars étalé dans son minable petit salon. Il le regarde fixement et il se dit, qu'est-ce que je fais avec ça?
Et c'est donc, on l'a compris, l'incident qui va en quelque sorte bouleverser le sens de sa vie, puisque donc ce garçon assiste de manière complètement fortuite à un braquage. On va pas révéler tout le film, enfin le braquage se passe mal, il récupère l'argent et donc il est devant un dilemme. Que faire de cet argent? C'est un homme qui est confronté aux inégalités sociales, puisqu'il est par ailleurs bénévole dans une soupe populaire au Québec. Et on voit toutes les questions qui se posent aujourd'hui dans le rapport à l'argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui. Et c'est aussi pour cela que ce sujet y résonne en France, Denis Arcand, parce qu'il est question d'inégalité, d'évasion fiscale, bref, des thèmes qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui.
C'est au cœur de toutes les actualités. Et il faut préciser aussi que c'est de l'argent qui provient de la vente de la drogue. Donc, c'est un braquage, oui, mais c'est un braquage entre...
Un braquage moral.
Oui, mais c'est un braquage entre bandits. Donc, c'est pas comme si des gens avaient volé une vieille dame ou même, à la limite, la banque, si vous voulez. Cet argent n'appartient à personne. Il appartient à la pègre qui l'a vendu. C'est-à-dire, chacun des billets a été le résultat d'une vente de quelqu'un qui s'est piqué avec de l'héroïne ou a sniffé de la cocaïne. Donc, cet argent est à personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Appeler la pègre en disant « Votre 12 millions, il est chez moi » ou alors appeler la police et le donner à la police. Mais là, comme vous le dites, on est sûr que l'État va le gaspiller parce que nous vivons dans des États qui sont devenus des monstres, qui ne sont imputables de rien et qui décident, dans le pire des cas, de faire des Jeux olympiques qui vont vous ruiner. Parce qu'on le sait, nous, à Montréal, on a fait
Jeux olympiques. Vous avez eu les Jeux olympiques.
Oui, c'est ça. Et on continue de les payer. Ça fait un demi-siècle et il y en a encore
pour
un autre siècle.
C'était quoi, en 68?
Non, c'est en 76, je crois. Oui, c'est Laura. En 68, en plus, on a eu une expo universelle. Alors ça, c'est la calamité par-dessus la catastrophe. Et depuis ce temps-là, la ville est en travaux, les rues sont défoncées,
c'est agréable quand même, Montréal.
Ah non, c'est une belle ville, puis les gens sont super sympathiques et j'aime bien la ville que j'habite. Mais on est, si vous voulez, dans la merde depuis tout ce temps-là et on ne s'en sort pas.
Vous savez que nous, on a des gilets jaunes. Vous avez quoi, vous, Denis Arcand?
On n'a rien en ce moment parce que il faut pas que vous oubliez que le Québec est un pays nordique. Ce qui veut dire que si vous voulez faire des manifestations entre le 1er décembre et le 1er avril, il risque de faire moins 25 et moins 30. C'est pour ça qu'en général, les pays nordiques, aussi bien la Suède que la Norvège que la Finlande, sont des pays calmes parce que toute tentative de mobilisation se heurte à l'horrible hiver, qui est le même hiver que la Russie. C'est pour ça qu'il faut jamais envahir la Russie. Enfin,
Jamais envahir le Canada non plus.
Sinon, par des Russes, ou si vous voulez faire envahir la Russie, appelez les Canadiens. On est les seuls à pouvoir se déplacer dans ce climat-là.
Mais est-ce que ça veut dire que sous vos doudounes, vous avez des revendications sociales ou même pas? Parce que en France, comme vous le voyez, ça ne manque pas.
Il y en a, mais les inégalités sociales au Québec sont un peu moins grandes qu'en France et beaucoup moins grandes qu'aux États-Unis. Il y a un filet social respectable. Ceci dit, vous avez vu dans mon film des Inuits, c'est-à-dire des gens qui sont qu'autrefois on appelait des Esquimaux. Le politiquement correct fait que maintenant on peut plus dire Esquimaux.
On dit peuple premier.
Peuple premier ou Inuit, qui était leur façon de se décrire, parce que Esquimaux c'était le terme dérogatoire que les Indiens employaient pour parler d'eux. Et donc ils ont demandé ce changement de terme, mais donc des Inuits qui descendent à Montréal pour toutes sortes de raisons, et je ne sais pas par quel moyen, parce qu'ils vivent vraiment au pôle Nord, et qu'on retrouve couchés dans les rues de Montréal, acculturés, évidemment drogués, alcooliques et tout ce que vous voulez, et c'est vraiment un destin extraordinairement tragique.
On écoute un autre extrait de votre film, Denis Arcand, La chute de l'Empire américain, avec un certain nombre de questions morales et puis d'autres qui ne se posent pas vis-à-vis de son banquier, par exemple.
J'ai absolument aucune loyauté envers ma banque. Le PDG a empoché 12 millions l'année dernière. Ça, c'est 257 fois mon salaire. Non, c'est juste que je suis monoparentale, j'ai un fils, j'ai besoin de sécurité.
Et quel âge, là?
12. C'est un bon garçon.
Ma fille a 10, moi.
Son père a disparu il y a des années.
Ma femme était fatiguée d'attendre. Faudrait vous commencer par nous trouver des bureaux. Ce serait bien que ce soit un endroit modeste et discret qui convient à une organisation charitable comme la nôtre.
Faites-moi confiance.
Votre personnage central, Denis Arcand, dans La chute de l'Empire américain, Pierre-Paul Daoust, retrouve l'ex-petite amie de votre personnage central, laquelle est employée de banque et évoque son peu de loyauté vis-à-vis de son patron, avec un sujet qui, là aussi, nous tient largement à cœur en France, les inégalités sociales et la manière dont la répartition des richesses se fait ou ne se fait pas, plutôt.
Exactement, c'est-à-dire que tout le monde, y compris les employés, admettre que le patron gagne plus cher qu'eux, parce que le patron peut-être a travaillé davantage, a fait des études plus longues, fait preuve d'un sens des affaires remarquable, etc. Mais quand ça commence à être 257 fois votre salaire, c'est qu'il gagne 12 millions de dollars et que vous en gagnez 45 000, là, le bas blesse. Et là, ça devient obscène. Et ça, ça existe chez nous, ça existe chez vous, ça existe aux États-Unis. Et ça ne va pas durer comme ça éternellement. Il va se passer des choses. Et moi, je pense que c'est à ça qu'on assiste maintenant.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire une sorte de grondement sourd des populations qui, aux États-Unis, votent pour Trump, par exemple. Juste parce que, pour ennuyer l'establishment, parce qu'ils ont perdu leurs usines qui ont été délocalisées en Orient, parce qu'ils ont plus rien, parce que c'est de Rust Belt, la ceinture de rouille de tout le Midwest américain. C'est la même chose au Canada. Le Brexit, c'est ça aussi. C'est des Anglais qui savent pas quoi, rien, ils en peuvent plus. Et alors ils disent, ah, c'est parce que Bruxelles nous met des règles impossibles à suivre. Mais c'est pas ça. C'est la vie devient impossible à vivre. Et j'ai l'impression que ici, le phénomène des Gilets jaunes, ça appartient à la même mouvance. Puis avant, c'était simple parce que la gauche, c'était des socialistes. Alors, donc, c'était des gens qui appartenait au parti et allait vers la société sans classe. Maintenant, on sait que ça, c'est un rêve qui n'existe plus. Donc là, il n'y a plus moyen de savoir ce que ces gens veulent. Puis ils ne le savent pas eux-mêmes. tout ce qu'il dit, c'est que on va changer ça. Il faut que ça change. Ça n'a pas de sens. On casse des vitrines, mais pourquoi? On ne le sait pas. Et ça, c'est un malaise de tous les pays occidentaux.
Mais justement, Denis Arcan, on a l'impression que le Canada, vis-à-vis des États-Unis, peut faire figure d'alternative. Alors, une alternative que d'aucuns pourraient trouver, par exemple, plus sympathique, plus enviable. On a tort?
Non, vous avez raison. Le Canada est un pays relativement sympathique, que j'habite avec beaucoup de bonheur. C'est un pays où les classes sociales sont presque inexistantes, un pays très égalitaire, avec un large filet social, la médecine... Pensez, moi, je vais souvent aux États-Unis parce que j'ai un appartement en Floride, donc j'habite là de temps en temps pour fuir l'horrible hiver québécois, justement. Et donc... c'est terrible. Il y a des gens qui, tout d'un coup, se sentent mal, ils ont un malaise et ils n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital, ils n'ont pas l'argent pour se faire soigner. Ils restent là et ils endurent leur mal et des fois, ils meurent parce que personne ne s'en occupe. Si vous avez mal aux dents et que vous n'avez pas 200 dollars dans votre poche, vous endurez votre mal de dents. C'est un pays horrible, les États-Unis, quoi. Et c'est pour ça que nous, quand on entend les Français parler du rêve américain ou des autres gens qui parlent du rêve américain, vous savez pas de quoi vous parlez. C'est une société hyper violente où tout le monde est armé, où il y a un massacre chaque semaine. Il y a des fous qui rentrent dans des écoles, dans des cinémas, n'importe où, qui tuent 40 personnes. Le Canada, c'est paisible. Il n'y a pas d'armes à feu. Le gouvernement est ce qu'il est. Gouvernement démocrate.
Ce qu'il est, c'est-à-dire?
Gouvernement un peu mollasson, mais de centre, un peu gentil, pas trop mal, assez honnête, la corruption n'est pas trop répandue, etc. Donc, c'est un pays éminemment vivable, le Canada.
Sur le plan, là aussi, problèmes que l'on voit aux États-Unis, problèmes de racisme, le Canada oui. Semble, là aussi, une bonne alternative.
Absolument, bien sûr. Sauf que nous sommes coupables d'un génocide. Ce génocide-là, c'est celui des Indiens. Les Indiens, maintenant... recommence à se prendre en main, à défendre leur culture, etc. Mais il y a encore beaucoup des victimes de ça que vous voyez dans les rues. Un peu moins peut-être au Québec. Il y en a dans mon film. Il y a des Inuits. Les Inuits terminent mon film. C'est les dernières séquences. Mais si vous allez à Edmonton, au nord de l'Alberta, près des grands champs de pétrole, là, puis vous allez à Winnipeg et des choses comme ça, c'est rempli d'Indiens.
Ah oui, vous avez quand même des schistes bitumineux.
Ah oui, nous avons beaucoup de schistes bitumineux qui nous enrichissent beaucoup.
Donc ouais. Voilà, ça c'est quand même un problème.
C'est quand même un grave problème parce que c'est hyper polluant. C'est des régions entières qui vont être inhabitables. C'est rempli de pétrole mélangé à du sable et tout ça. Donc c'est pas...
Mais comment vous faites ? Et il y a beaucoup de Français pour qui le Canada est un rêve. On parle du rêve canadien. Quel est le secret de ce pays qui semble résister à la vague populiste? Parce qu'on peut, par exemple, ne pas apprécier cette vague populiste. Comment faites-vous pour ne pas avoir de réaction violente comme on l'observe dans d'autres pays aujourd'hui en Occident?
Mais c'est parce qu'il faut que vous compreniez que d'abord que le Canada est un pays immense qui n'est à peu près pas peuplé. Il a la taille des États-Unis, c'est-à-dire qu'il va de l'Atlantique au Pacifique et il est habité que sur une bande d'à peu près 100 kilomètres le long de la frontière américaine. Le reste, c'est vide. C'est des forêts, des lacs, c'est rien. Donc, c'est pas cette notion d'espace. L'espace est tellement immense que, on dirait que ça fait tomber les pressions. C'est pas comme une marmite, si vous voulez. Ici, quelqu'un qui est ici, il y a du monde tout le tour, donc il bouille. Là, il peut toujours aller prendre une marche en forêt, il va être seul. Il ne verra pas âme qui vive pendant des kilomètres et des kilomètres. Alors, il y a ça d'une part. Après ça, il y a l'hiver, comme je vous ai expliqué. Ben, l'hiver fait que il faut rester chez soi parce qu'il fait trop froid dehors. Donc, ça aussi, ça calme des esprits agités. Et puis aussi parce que le gouvernement répond. C'est un gouvernement assez démocratique. C'est un pays plutôt homogène dans le genre que c'est tous des blancs de culture moyenne, etc. et tout ça. Donc c'est un pays paisible et certainement très habitable.
La chute de l'Empire américain, Denis Arcand, c'est le troisième terme d'une trilogie. Alors on se souvient, parce qu'on les avait vus avec énormément de plaisir, du déclin de l'Empire américain, ça c'était en 86, et les invasions barbares, c'était en 2003. Il a été également distingué par l'Oscar 2004 du meilleur film, et vous avez eu trois Césars en 2004 également. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire au travers de cette trilogie, où on ne retrouve pas les mêmes personnages ?
Pas tout à fait. Et au départ, ça ne devait pas du tout être une trilogie. C'était un film que je faisais comme je fais chacun de mes films. J'ai commencé à le faire. Je me suis intéressé d'abord au fric. C'était ça le but de mon exercice. Le fric qui pourrit tout. Le fric qui est devenu la puissance ultime de nos sociétés. Et puis j'ai appelé ça « Triomphe de l'argent ». Et puis pendant que je faisais le montage, les gens avait de la difficulté à souvenir du titre, me semble-t-il. Il disait ton film sur l'argent, là, c'est quoi, la victoire de l'argent ou l'argent, là, comme dans le film de Bresson. Et là, je me suis dit bon. Ouais. Puis il y a d'autres qui me disaient moi l'argent, de toute façon, je ne veux pas en entendre parler. On entend trop parler de fric, je veux pas voir ça, je veux voir autre chose, etc. Là, je me suis dit je crois que je me suis en train de me tromper de titre. Et quand on se trompe de titre au cinéma, on le paye très, très cher. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Donc,
Est-ce que vous étiez trompé de titre?
Quand j'ai fait un film qui s'est appelé Jésus de Montréal, le mot Jésus dans les pays catholiques, c'est pas bon. C'est pas ça, ça rappelle les bonnes sœurs, les curés, les machins, etc. C'est une erreur que j'ai commise et puis j'en ai payé le prix. Donc, je me suis dit, je vais trouver un autre titre. Puis là, j'ai pensé justement déclin, invasion. Je me suis dit, allons-y avec la chute, ça va faire, historiquement, ça va être comme un peu cohérent, si vous voulez. Voilà.
Et c'est marrant parce que moi, je me souviens pas du tout de films sur l'argent. Je me souviens de films drôles, émouvants, et avec des personnages d'intellectuels torturés, mais aussi parce que la vie torture. Elle torture pas que les intellectuels. Elle torture tout le monde. Et toute une série de réflexions sur la manière dont on peut résister à ces différentes questions que nous pose l'existence, de Denis Arcand.
Oui, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qui vous ennuie dans ça ?
Non, je me souviens pas du tout. L'argent est un thème qui est là aujourd'hui dans ce troisième film que vous avez fait, mais qui était, dans mon souvenir, en tout cas marginal dans les deux premiers.
Absolument. Ah oui, ça, vous avez bien raison. Mais je pense qu'aussi, ça a un rapport avec l'âge que j'ai et mon parcours. Quand j'avais 40 ans, que mon premier mariage venait de s'écrouler et que je vivais dans les années 60, qui était, je veux dire, la libération sexuelle où tout le monde couchait avec tout le monde, etc. Et tout ça, c'était le nouvel espace de liberté dont tout le monde profitait. Ben, j'avais envie de faire un film là-dessus parce que c'était à ça que ma vie était occupée à ce moment-là. Plus tard, quand j'ai eu 60 ans, la mort a commencé à être très présente autour de moi, comme pour tous les gens de cet âge-là. J'ai perdu mon père, ma mère, j'ai perdu mon frère qui était plus jeune que moi, et la mort a commencé à m'environner. Donc, j'ai eu envie de faire un film sur ça, quelqu'un qu'on aime, qui s'en va, qui part. Et puis là, maintenant, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste, en fait? Et j'avais, non pas qu'il me reste beaucoup d'argent, c'est pas ça, mais je me suis dit, en fait, ce qui commence à m'agacer, c'est qu'on parle toujours d'argent, tout le temps, y compris dans mon métier. C'est-à-dire que personne ne se souciait de savoir combien Ingmar Bergman allait faire le premier week-end d'exploitation de son film, où John Ford, il faisait des westerns,
Peut-être qu'eux, ils s'en souciaient, je ne sais pas.
Je crois pas. En tout cas, quand on lit leur mémoire ou des choses comme ça, c'est pas ça leur problème. Ils voulaient faire les meilleurs films possibles. Alors que maintenant, tout est mesuré à ça. Dès qu'on parle de n'importe quel domaine dans ma zone d'intérêt. Warhol, le dernier Warhol s'est vendu 7 millions. Est-ce qu'on va réussir à toucher 10 millions lors de la prochaine vente? Basquiat a dépassé Warhol cette fois-ci, ça s'est vendu. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Et il semble qu'on ne peut pas parler d'autre chose. Probablement parce que tous les autres idéaux dont j'ai parlé dans mes autres films, justement, sont tous disparus. Et donc, il reste le fric. Moi, je trouve ça moche. J'avais envie de faire un film sur ça, que je trouve ça moche.
Mais alors, En tout cas, on conserve le souvenir donc dans ces trois films de Denis Yerkamp, puisque le troisième sort cette semaine, des turpitudes de l'époque. Qu'est-ce qui pose problème? Il y avait le sida, et lorsque celui-ci était au cœur de l'actualité, même si il y a encore, hélas, toujours le sida, il y avait des thématiques qui étaient des thématiques profondément contemporaines. Est-ce que le fait de filmer ces questions vous a aidé à mieux vivre ces différents problèmes et ces différents tourments que tout être humain héberge en lui ?
Oui, oui. Je pense que quand je m'adresse, comme je fais des films en fait sur ma vie, sur des problèmes que je ne peux pas résoudre ou qui m'angoissent ou qui me troublent et à propos desquels je ne sais pas quoi penser exactement, je fais un film là-dessus, comme un autre intellectuel ferait un livre. Les intellectuels font des livres, font des conférences, écrivent des pièces de théâtre. Moi, je fais des films. Et au bout du compte, à la fin, j'ai précisé ma pensée. J'ai précisé, et ça m'aide à vivre. Et dans le meilleur des cas, ça peut aider le spectateur à vivre. Ou en tout cas, ça peut dire au spectateur, voilà, je suis comme vous, j'ai ces problèmes-ci avec l'argent. Si vous avez les mêmes, ben pensons aux mêmes solutions. Ou en tout cas, moi, quand je vais au cinéma, j'aime ça voir la vie de quelqu'un et qui me raconte ses tourments ou ses joies ou ce qu'il trouve drôle ou ce qu'il trouve comique ou tragique ou peu importe. J'ai l'impression, en sortant du film, d'avoir rencontré quelqu'un et donc d'avoir diminué ma solitude.
Mais l'une des caractéristiques de vos films, c'est que la chose intellectuelle y occupe une place importante et pour autant, on n'a pas affaire à des caricatures de films intello. On n'a pas l'impression d'être face à un geste artistique incompréhensible, impénétrable.
Non, mais il n'y a pas question de ça. C'est juste que souvent, ces personnages-là, ce sont mes amis. C'est moi et mes amis. Il se trouve que j'ai un diplôme universitaire, que j'étais très ami avec mes profs à l'université. Mon frère était anthropologue, professeur d'anthropologie. Ma sœur est criminologue, professeur de criminologie. J'ai passé ma vie avec ces gens-là. J'ai plus d'amis, si vous voulez, dans le milieu des intellectuels que j'en ai dans le milieu du cinéma. Je suis ami aussi avec des cinéastes, là, mais j'en connais plus qui sont des écrivains, des philosophes, des choses comme ça. Donc, ça n'est pas une caricature. Ce que je raconte, c'est leur vie et ma vie. Donc, c'est totalement ancré dans la réalité que j'habite.
Et être un cinéaste québécois, autrement dit, filmé en français, alors que vous êtes tout à côté des États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Denis Sarkan?
Ben c'est simplement que je rencontre de ma réalité. Moi, je parle en français le plus clair du temps, sauf quand je suis avec des anglophones ou que je suis aux États-Unis. Mes amis parlent français. On parle tous français. Les Américains nous considèrent comme des originaux un peu particuliers. Ah, vous parlez français. Des fois, ils comprennent pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir faire une interview avec quelqu'un qui était à Seattle et qui me dit, c'est quand même étrange pour un cinéaste français d'habiter Montréal. Là, je dis, mais je suis pas un cinéaste français, je suis un cinéaste québécois. Mais il dit, pourquoi vous faites des films en français, alors? Etc. Vous voyez le genre d'espèce de malentendu que ça cause. Mais ça fait que mes films, évidemment, comme ils sont pas en anglais, ils touchent un moindre public. Cela dit, aux États-Unis, il y a quand même maintenant à peu près 40 millions de personnes qui peuvent plus supporter les films d'Hollywood et qui veulent voir des films français, allemands, suédois. Et mes films passent dans ça. C'est quand même un public très important. C'est même l'endroit où mes films sont le plus vus. Sauf que 40 millions de personnes sur 370 millions, on les voit jamais. C'est comme les intellectuels américains, c'est comme les gens qui sont de gauche aux États-Unis. On a l'impression qu'ils n'existent pas, parce qu'ils sont noyés dans l'espèce de mer déchaînée des États-Unis, si vous voulez.
Merci beaucoup, Denis Yerkamp, de nous avoir rendu visite ce matin. La chute de l'Empire américain, c'est le film que tous nos auditeurs peuvent aller voir, car c'est un film jubilatoire, à la fois drôle, émouvant, avec des sujets graves, et il est en salle, donc dès demain. Thank you. Et il y a une très belle bande originale, vous l'entendez, un extrait de la bande originale du film de Denis Sarkange.